On écoute le reportage d'Alternativa sur le thème de la biodiversité urbaine.
C'est parti, bonjour, bonjour à tous qui nous écoutez, bienvenue à cette rencontre consacrée à la biodiversité urbaine. Merci à la Maison Phare de nous accueillir dans le cadre de l'émission Far West et en partenariat avec Alternativa Dijon dans le cadre du mois de la biodiversité urbaine. Alors, biodiversité urbaine, qu'est-ce à dire ? Vaste concept qu'on pourrait traduire par diversité du vivant en ville. Nous n'aurons pas la prétention, dans le temps qui nous est imparti, de couvrir le sujet. Aussi, allons-nous croiser des regards, ceux d'acteurs associatifs de terrain. Alors, Xavier, Philippe, bonjour, vous représentez l'association SAGE et vous nous parlerez des pollinisateurs et des abeilles, évidemment. Merci d'être là. Luc Strena, bonjour. Bonjour, vous représentez la LPO et vous nous parlerez des oiseaux. On verra quelles sont vos actions. Merci, Luc, d'être présent. Colline et Hélène, bonjour. Vous représentez Graines de Noé. Et vous nous parlerez de semences anciennes, plus particulièrement des céréales. On verra avec vous qu'on peut aussi remettre du blé en ville et impacter les comportements. Voilà. Gaël Buisse, bonjour.
Bonjour.
Vous représentez Fruits Malins qui travaille à l'optimisation des ressources végétales comestibles et à changer nos comportements alimentaires dans le respect des énergies naturelles. Merci d'être venu. Alors, on va commencer par lequel d'entre vous, puisqu'il s'agit de faire converger des regards. On va commencer par SAGE, par exemple. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, Xavier, Philippe, qu'est-ce que ça veut dire, SAGE? C'est quoi cet acronyme?
Garde des abeilles, gardienne de l'environnement.
Vous intervenez en ville, on le sait, puisque vous y posez des ruches. Mais vous faites autre chose et quelle est la pertinence de poser des ruches en ville?
Alors, le gros intérêt d'avoir des abeilles en ville, c'est déjà d'interpeller tous les citoyens, c'est d'interpeller les Dijonnais en particulier sur le sort de ces petites bestioles qui sont très très utiles à la biodiversité. Alors, quand on dit ça, on ne dit pas grand-chose. C'est aussi de montrer, aux gens que on peut vivre en harmonie avec ces insectes et que quand on commence un petit peu à faire attention à la nature, quand on commence à faire un petit peu attention à ce qui se passe autour de soi, ça évolue favorablement. On comprend ce qui arrive aux abeilles, on comprend pourquoi est-ce qu'elles sont revenues en ville et qu'elles vivent mieux en ville qu'à la campagne. Et là, c'est une sorte d'éducation à l'environnement, une sorte d'éducation à la biodiversité. On a des gens qui commencent à mettre moins de phytosanitaires, voire plus de phyto du tout dans les jardins, et puis commencer à regarder les insectes autrement que quelque chose qui pourrait éventuellement les piquer. Et là, on a tout gagné.
Ah oui, du coup, effectivement, tu affirmes donc que ça modifie les comportements. Parce que ça, je voudrais une réponse très rapide, mais on entend beaucoup dire qu'elles sont très menacées, et puis que ça serait une véritable catastrophe. Donc, où on en est, mais rapidement, s'il te plaît.
Alors, très rapidement, c'est une vraie catastrophe. Moi, on ne va pas faire les statistiques, vous les trouverez sur Internet. C'est une vraie catastrophe, ouais. Tant en nombre d'abeilles, en nombre de ruches, en production de miel, si on parle de production, mais nous, on n'est pas là pour la production. Mais c'est vraiment un effondrement des colonies d'abeilles, il y a un effondrement de tous les pollinisateurs. Et comme on l'avait dit, quand on a une ruche qui contient 30 000 abeilles qui meurent, combien de pollinisateurs sauvages sont morts sans qu'on les voie, quoi. Donc là, en ville, elles se portent bien. Elles se portent bien, pourquoi ? Rapidement, c'est parce qu'on a ce qu'on appelle la floraison étagée, c'est parce qu'on a tout le temps des fleurs différentes. On n'a pas un méga champ et ensuite plus rien.
C'est ça. Et tu parles d'effondrement de population. Luc, est-ce qu'on assiste à des... On en entend peut-être moins parler, mais je pense qu'il doit aussi y avoir pas mal de problèmes avec les oiseaux. Je pense aussi à certaines migrations, etc. Est-ce qu'on assiste aussi à du dégât dans la faune volatile?
Ah ben, la campagne, les espèces des espaces découverts, des grandes cultures en particulier, ont diminué dans des proportions catastrophiques ces 20 dernières années. On estime qu'il y a 40% de la vie faune qui a disparu sur des espèces très très communes. Donc, du coup, la ville joue un rôle pour certaines espèces qui ont trouvé une niche écologique adaptée et qui ont commencé à occuper la ville.
C'est ça, donc finalement on peut presque établir un parallèle entre les deux situations, à savoir en milieu rural un environnement qui se dégrade et puis des phénomènes d'adaptation en milieu urbain pour certaines, que ce soit des pollinisateurs ou que ce soit des oiseaux.
Oui, sauf que pour les oiseaux, il faut plus de temps pour s'adapter que pour les insectes. Évidemment, à cause de la succession des générations, c'est un petit peu différent.
D'accord, très bien. Colline et Hélène, la biodiversité urbaine, ça vous dit quoi, vous, avec vos céréales et votre blé?
Alors nous, c'est vrai qu'à Graines de Noé, on travaille plutôt sur le blé et les céréales, donc on a plutôt une tendance, on travaille prioritairement sur au niveau rural, mais il faut savoir qu'au niveau de la ville, depuis plusieurs années, on distribue régulièrement des semences de céréales en fait, dans des villes à travers la France, comme Paris, via des associations, via des conseils départementaux ou bien des espaces verts des villes, qui sont déjà intéressés en fait, pour mettre des petites plateformes pédagogiques dans les jardins publics. Et ce qui fait qu'ils ont vraiment, il y a une volonté déjà de sensibiliser les citadins à la diversité des céréales. Je trouve que c'est, on n'a pas besoin d'aller vers eux, ils sont vers nous naturellement. Donc je trouve que déjà ça, c'est un point positif. Il y a une volonté commune, je trouve, de se reconnecter un peu avec l'essentiel qui est la semence de blé, en fait, la semence de céréales, et qui parle à tout le monde, je pense, aussi bien aux citadins qu'aux gens des campagnes.
Donc, oui, bah, le blé, le pain, oui, c'est ouais. Véritablement quelque chose qui parle à tout le monde, quoi. Le vin aussi, d'ailleurs. Gaëlle, alors, fruits malins et la biodiversité urbaine, vous faites pas mal de trucs, vous aussi. Qu'est-ce que t'en penses, ça?
Pour nous, la biodiversité urbaine, ça va de l'arbre qui se trouve dans le fond de la cour ou dans un jardin pavillonnaire, jusqu'aux aménagements paysagers qui peuvent être faits par la ville. Ça passe aussi par toutes les parcelles des jardins partagés. Ça passe aussi par tous ces vergers qu'on peut rencontrer en secteur périurbain, qui abritent beaucoup d'espèces qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, ni chez les pépiniéristes. Enfin, nulle part ailleurs et qui sont en voie de déclin.
Ah oui, mais c'est juste qu'en plus en ville il y a une représentation des végétaux qui est assez particulière, oui. Beaucoup plus diversifiée qu'on ne pense d'ailleurs au demeurant.
Forcément beaucoup, beaucoup plus diversifié parce qu'on a des apports de l'extérieur. Il y a beaucoup d'échanges aujourd'hui qui se font d'une région à une autre. Alors il y a des plantes complètement artificielles qui sont amenées via les achats que peuvent faire les particuliers dans les jardineries. Mais c'est aussi des échanges qui ont lieu tout au quotidien à travers les espaces. Et ça donne une diversité qui est très importante.
Bon, donc on pousse tous les quatre tous dans le même sens, là, ça a l'air pas mal, j'espère qu'on va y arriver. Alors pour les actions plus concrètes, alors par exemple, comment ça se passe pour une installation de ruches en ville? Je vous interpelle encore tous les deux, Philippe et Xavier.
Voilà, les ruches en ville, en fait, il y a des...
Est-ce que tout le monde peut en poser, par exemple?
Tout le monde peut poser, oui, quasiment, sur des balcons, par exemple, c'est possible de poser des ruches, enfin encore faut-il que les voisins soient d'accord, on peut pas faire ça quand même sans prévenir les voisins, mais quasiment tout le monde, oui, dans un jardin, il faut, je crois, si je me souviens bien, c'est 2 mètres au-dessus, 2 mètres de chaque côté du rucher, mais sinon tout le monde peut le faire, effectivement. Oui.
Est-ce que ça serait pas un problème qu'il y a une
surpopulation?
En l'occurrence, et de l'abeille en particulier, parce qu'en fait, c'est pas que l'abeille, c'est tous les pollinisateurs.
Il faut effectivement vérifier qu'il y a assez de flore, assez de pollen autour, effectivement, ça c'est indispensable. Mais dans l'ensemble, les gens ont rarement plus d'une ou deux ruches près de chez eux. Bon, on ne peut pas avoir un gros rucher en ville, effectivement. Mais encore que je vois, nous, que ce soit au jardin des sciences, le jardin des sciences, c'est un peu particulier parce qu'il y a un grand jardin, mais que ce soit au jardin des sciences ou à, je sais pas, je pense à Valmy, à d'autres ruchers, en fait, on s'aperçoit qu'il y a 5, 6, 6 ruches à chaque fois, et puis elles se débrouillent assez bien. Enfin, je dis ça, mais il y a de la perte quand même. Il y a quand même beaucoup de pertes, et ça nous inquiète un peu, ça c'est clair.
D'accord. Luc, pour les oiseaux, vos actions urbaines, on peut être réfugié LPO, il me semble. Hein. Il y a des opérations pour poser des nichoirs, il y a tout un panel d'actions.
Alors, il y a déjà des actions de connaissance de la vie faune urbaine, parce que c'est un domaine qui n'est pas toujours très très connu. Dans beaucoup de pays d'Europe, de villes d'Europe, y compris des grandes capitales comme Paris, il y a des atlas de la vie faunicheuse qui ont été faits. Donc ça, c'est l'aspect connaissance. Quant à l'aspect action, effectivement, il y a la possibilité pour n'importe quel particulier, même un balcon, de se mettre en refuge LPO. Donc il y a un certain nombre de préconisations, comme l'absence de phytosanitaires, etc., qui doivent être respectées. Donc on peut aussi, s'il y a suffisamment de place, s'installer des nichoirs. Ce que je voudrais dire, c'est que par rapport aux insectes, quand même, être un tout petit peu plus précis, les oiseaux occupent une place, entre guillemets, supérieure dans la chaîne alimentaire, et par conséquent, il leur faut beaucoup d'insectes pour pouvoir se développer. Et ce qu'on ignore souvent, c'est que les espèces granivores ont besoin d'insectes pour nourrir leurs petits. Donc pour que vraiment la diversité urbaine, biodiversité urbaine en avifaune se développe, il faut que la quantité d'insectes augmente de façon significative.
Oui, voilà. C'est ça.
Donc il y aura un effet retard par rapport aux insectes, c'est sûr.
Oui. On a tous dit qu'en l'occurrence, le premier facteur, c'était les phytosanitaires. Mais ce que je trouve intéressant dans cette convergence de regard, c'est que tout ça est effectivement lié. Les abeilles, les pollinisateurs vont sur les fleurs, les oiseaux mangent les graines, qui mangent eux-mêmes les insectes. Et pour ça, il faut bien qu'il y ait des plantes et tout ça se tient. Par contre, effectivement, ce qui me chagrine un peu plus, c'est que dans la façon dont le changement climatique va se produire, il risque probablement d'y avoir des arythmies et des ruptures d'équilibre. Mais ça, c'était juste pour faire mon pessimiste. À part porter intervenir dans les jardins de Paris, Colline et Hélène, dites-moi voir comment ça se passe quand vous distribuez des petits sachets de graines. C'est quoi le principe, en fait?
Alors, ça
qu'est-ce qu'il y a dedans, et puis qu'est-ce qu'on en fait?
Ça dépend à qui on s'adresse. Est-ce que ce serait pour les agriculteurs, pour les particuliers, pour un visée pédagogique, pour que ce soit en ville? Tu veux que je parle plutôt de la ville?
Oui.
Donc en fait, quelqu'un décide de faire une plateforme pédagogique en ville, nous on cède les graines gratuitement, et ce qu'on essaie de faire, c'est de leur donner un panel de variétés qui va un petit peu retracer l'évolution du grain de blé depuis la première espèce jusqu'à au blé tendre qu'on connaît plus actuellement, qu'on connaît à travers le pain qu'on mange tous les jours. Et donc en fait, les personnes qui vont être chargées de faire la plateforme vont faire des petits carrés d'un mètre carré pour chacune des variétés qui va être bien distinguée, les variétés vont être bien distinguées les unes des autres, séparées par une allée d'un mètre pour bien distinguer les différentes variétés. Et puis en fait, comme ça, les gens, ils peuvent se balader entre les parcelles, observer la diversité des céréales, rien que sur le blé. Rien que sur le blé, il y a énormément de variétés. Et donc ça, on a totalement perdu cette connaissance-là. Et donc le fait que les citadins puissent observer toutes ces variétés, ça va les sensibiliser à la diversité des céréales qu'on a totalement... on s'est totalement détaché de ça parce que tout ce qu'on mange tous les jours dans le supermarché, tout a le même goût, et donc on se rend pas compte en fait de tout la diversité du goût rien que sur le blé, en fait.
C'est ça. Tu peux me rappeler combien on a de variétés différentes à graines de Noé? Je sais plus.
On a environ 200 variétés. C'est ça. Et il faut savoir qu'on a 90% correspond à du blé, et puis on a quelques variétés d'orge, d'avoine, de seigle et de millet. Et tout, enfin là, je parle des variétés anciennes en fait. Nous, on travaille sur les variétés anciennes. Donc, on n'a peut-être pas encore précisé. Mais...
Colline.
Et vous pouvez également devenir semeur de la biodiversité en récupérant justement une petite collection de blé ou d'autres céréales. Il n'y a pas besoin d'une grosse parcelle pour semer ces différentes variétés. Vous redécouvrirez une diversité incroyable, des blés barbus, non barbus, des couleurs, des tailles.
Voilà. Donc, découverte de la biodiversité aussi à travers le goût. Bah, tiens, ça me fait penser, Gaël, à Fruits Malins, ça vous savez faire. Quand vous demandez aux gamins quand il y a de variétés de pommes et puis que vous entendez les jaunes, les rouges, les vertes, ça vous fait doucement rigoler. Alors, je sais que vous menez aussi plusieurs actions, les ateliers confiture, les soupes anti-gaspi, salades anti-gaspi, il y a tout un tas de trucs.
On a effectivement une grande dimension pédagogique, puisque finalement, en arpentant le territoire dijonnais, on redécouvre à la fois les fruits que tout le monde connaît, hein, des pommes, des poires, des coings, mais aussi tout ce qui peut être baies, notamment tous les petits fruits des arbustes qui sont beaucoup moins connus auprès des consommateurs, puisque on retrouve des baies qui aujourd'hui, comme la cornouille, sont plus du tout les gens ne savent pas reconnaître un cornouiller, les gens n'ont jamais goûté le fruit d'un cornouiller. Donc ça nous amène justement à faire redécouvrir un petit peu tous ces arbres qu'on retrouve en abondance sur le territoire dijonnais et que les Dijonnais ont oublié.
Et là-dedans d'ailleurs, enfin dans toutes ces baies que vous allez collecter, il y a beaucoup d'arbustes qui sont ménifères par ailleurs. Enfin, encore une fois, on retombe sur nos pieds. Et puis en particulier la sorbe, voilà, pour le coup... Ça concerne directement les oiseaux, c'est pas pour rien que ça s'appelle le sorbier des oiseleurs. On va faire une petite pause si vous voulez bien.
On fait une pause musicale avec le titre d'Oxmo Puccino 365 jours.
Ceux qui disent le temps c'est de l'argent sont dans l'erreur. Si on met les zéros de côté, pas les heures. Je commande un café avant le texte pondu. Demande mon dû, car j'ai posé avant que le sucre ait fondu. Souvent en avance où le temps m'importe, mon pote. Si tu ne peux être à l'heure, faut que tu te téléportes. Quand on se rate, y a pas de prochainement. La vie est courte et la mort a tout le temps. Né le matin, majeur à midi, vieux des 20h. L'histoire oublie les héros, pas les vainqueurs. 365 jours puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. Celui qui écoute, peu importe ce qu'on dit, le temps révèle tout. Le temps fait du bien à l'amour, contrairement à ce qu'on pense. Les regrets, c'est quand on se bourre concrètement. Le mauvais temps n'est pas le froid ou le gris. C'est ce qu'on s'était juré, qu'à force on oublie quand j'arrive pas à écrire. Le mauvais temps, celui qui te ronge, la migraine quand tu t'interroges. Les rêves s'éloignent, tu cours à leur poursuite. En vieillissant, de moins en moins ne plus me poursuivre. La durée de ma chanson est décroissante. Désolé, je ne sais compter que jusqu'à 60. 365 jours, puis 700 le temps. Commence à manquer, tu l'espionnes. 365 jours, puis 700 le temps. Commence à compter, tu te questionnes. Des chiffres et des lettres, des chutes et des litres, des chèques et des contrats. Tout ce que tu pourras et lorsque tu pourras plus, tout va ralentir. Signe que l'avenir devient repentir. Chaque marche passée, l'escalier s'effondre. Alors je saute en chantant chaque seconde. La vie est un beau train avec de sales wagons. Et la chance vagabonde, j'attends pas qu'on m'approuve. Je suis un grand de ce monde, compose avec la lumière en tant qu'homme de l'ombre. 365 jours, puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. 365 jours, puis 700 le temps commence à compter, tu te questionnes.
retrouve la deuxième partie du reportage sur la biodiversité urbaine.
Et nous voilà de retour après cette petite pause musicale. Alors, vous n'êtes quand même pas réunis par hasard, finalement, les uns et les autres. On s'était déjà croisés, vous vous êtes déjà croisés, puisqu'on avait eu l'occasion de faire la journée de la biodiversité avec Alternativa et le parrainage aussi de la de Zutik Production. Vous étiez, la LPO était présente, Graines de Noé aussi, Sage aussi, Frumala aussi. Et vous n'êtes pas là par hasard non plus, parce qu'en fait, vous êtes... aussi concerné par un projet qui est porté par Fruits Malins. Gaël, tu peux nous en parler, et les uns et les autres, vous allez nous dire ce que vous pensez de ça aussi. Et on est en plein dans le cœur du sujet, puisqu'en fait, on va essayer de recréer, je crois, si j'ai bien compris le projet, un espace de nature maîtrisée en ville. Qu'est-ce que ça veut dire, nature maîtrisée, Gaël?
Ouais, en fait, on a eu la chance, grâce à la ville de Dijon, de disposer de terrains, de parcelles en ville. On sait que c'est de plus en plus difficile d'avoir des espaces verts et des espaces cultivés en ville actuellement. Et donc, on a la chance d'avoir quasiment 5000 mètres carrés qui sont présents au niveau des Valandons, donc pas très loin de la chaufferie. Sur cet espace-là, nous, ça fait déjà quelques années qu'on sillonne le territoire dijonnais à repérer un petit peu les diverses essences d'arbres et d'arbustes, et on voulait avoir un espace pédagogique sur lequel on pourrait représenter toute la variété, la diversité de l'agglomération dijonnaise en un seul et même point. Et donc, du coup, en récupérant ces parcelles, on a implanté toute une collection d'arbres et d'arbustes qui vont nous servir d'espace pédagogique auprès des Dijonnais. Mmh. Et donc, cet espace, il est aussi ouvert aux autres associations et du coup, dans la logique à Sage pour les abeilles, puisque ça sera aussi un espace vivrier pour les abeilles. Ça sera un espace ouvert aussi à l'association Graines de Noé. On veut aussi implanter des céréales en ville. Ça, c'est ancienne. Une origine ancienne en ville. Et puis également à la LPO, puisqu'on veut boucler la boucle. Et c'est un moyen aussi de coordonner un petit peu toutes les associations au niveau de ce terrain-là.
Et on a, vous aurez... Vous serez... Vous travaillerez aussi avec le Jardin des Sciences, puisque pour compléter le tour de table, on l'a dit, tout se tient, que ce soit les oiseaux, les insectes, les graines, les fleurs, etc. Le Jardin des Sciences, puisqu'il y aura aussi, si j'ai bien compris, un herbarium où seront représentées toutes les plantes, pas toutes, mais les plantes sauvages comestibles autochtones qu'on pourra venir découvrir sur place, au milieu des blés et sous les arbres fruitiers.
Oui, tout à fait.
Merci.
Non, l'idée c'est d'avoir représenté vraiment tous les insectes, les oiseaux, les arbres, les arbustes, toutes les herbes. C'est d'avoir vraiment toute la nature et un écosystème qui soit implanté au Valandon.
Et si oui, c'est ça, j'aime bien l'idée d'écosystème, mais en fait, si j'ai bien compris, c'est ni de l'agroforesterie, ni de la permaculture, c'est juste la démonstration que la nature peut très bien se dépatouiller toute seule et puis essayer de montrer qu'un équilibre peut se former, quoi. Et ça, fondé quand même sur le fait qu'en plus, tout ça soit comestible, parce que le miel est comestible, les graines sont comestibles, ce qui a été planté c'est comestible aussi, et l'herbarium en question sera constitué de plantes comestibles. Il y en a une quarantaine de mémoire, tu peux nous les citer ?
Oh non, là ça va être un petit peu compliqué. Non, l'idée c'est aussi, c'est un bon moyen justement d'avoir que des espèces comestibles pour sensibiliser les Dijonnais à travers le goût. Ça reste quand même, il y a une grande sensibilité quand même des personnes à la dégustation au terroir. On est quand même la future cité de la gastronomie. C'est pas rien et c'est aussi le moyen quelque part derrière de lier la biodiversité avec nos goûts, avec notre alimentation, et ça c'est indispensable.
D'accord. Donc Graines de Noé, vous êtes dans le coup, si j'ai bien compris. Vous allez y faire quoi?
Alors nous, on a déjà fait quelque chose l'année dernière au Valandon.
Ah oui.
Eh oui, on a eu la chance donc d'avoir que Fruits Malins nous prête quelques petites parcelles sur son terrain. Et donc on avait semé déjà une petite collection de parcelles pédagogiques sur le blé, et puis des parcelles de quelques dizaines de mètres carrés avec des variétés comme l'engrain, l'avoine, l'orge, l'engrain, l'avoine et l'orge ancienne. Et donc cette année, on va réitérer cette opération, mais on va essayer cette fois de vraiment impliquer les gens du quartier dans les semis, voire les moissons de cette année. Et donc pour ça, on va essayer de semer des variétés qui vont se récolter plutôt à la rentrée, donc en septembre, pour qu'il y ait plus de personnes disponibles. Parce que faire les moissons au mois d'août, ben, on n'a pas beaucoup de bras pour nous aider. Donc, qu'est-ce qu'on va semer ? Ben, on va continuer à semer des blés ce printemps-là, mais on va compléter par des variétés comme le millet, le tournesol, le maïs, et puis aussi des légumineuses pour un peu apporter de l'azote au sol de manière naturelle, quoi.
Voilà. Ben oui, l'azote au sol, on n'y pense pas assez.
Conseil agricole,
hein, ça fait toujours du bien. Merci Hélène. Luc ? Elle a LPO, elle va se bouger aussi. D'ailleurs, où c'est qu'on en est des nichoirs ? Est-ce qu'il ne serait pas un petit peu tard pour les mettre sur la surface, ou est-ce qu'on peut encore faire quelque chose ?
Alors, c'est un petit peu tard parce que les oiseaux cavernicoles qui occupent les nichoirs, comme les mésanges par exemple, ont tendance à explorer en ce moment les cavités pour faire leur choix. Et donc, ça risque d'être un petit peu tard, mais bon, certains nichoirs peuvent encore être occupés pour des espèces qui nichent de manière plus tardive. Et puis, de toute façon, ils seront en place pour l'année prochaine.
Ah, bah, très bien. Alors, vous pensez faire ça avec graines de noix, avec fruits malins, quand ?
Oh, bah, dès qu'on aura pu trouver les moyens de fabriquer les nichoirs, parce que pour les poser avant, il faut les fabriquer. C'est le seul souci, mais autrement, il n'y a pas de problème.
Ah, c'est que ça, mais il me semble qu'on s'entend très bien avec l'attitude 21, on pourrait peut-être voir de ce côté-là, ça devrait peut-être pouvoir se faire.
Mais il est possible de faire un atelier nichoir où tout le monde vient, des deux associations.
Eh bien écoute, je vérifie auprès de Gaël, mais je crois que c'est vendu.
Ça marche, le rendez-vous est pris.
Bon, une bonne chose de faite.
Looping, Philippe, Philippe, Xavier, alors les ruches.
Alors les ruches, ben nous on est super heureux de faire partie de ce projet-là, donc on est bien bien contents, super heureux. Les mots qui ont été dits tout à l'heure me vont très très bien. On a parlé d'équilibre, on a parlé de retour à la nature, et ça c'est fantastique. Un petit peu comme on l'avait dit tout à l'heure, le but c'est pas d'installer des centaines de milliers de ruches, hein, c'est de faire des petits points, c'est ce que SAGE fait, hein, des tout petites unités à plusieurs endroits. Et chaque fois on va faire des analyses, chaque fois on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors petites unités, c'est normal pour éviter de faire de la pression sur les pollinisateurs qui s'y étaient déjà là avant nous. Et d'ailleurs, j'engage, c'est une parenthèse que j'ouvre là avec votre permission, j'engage tous les Dijonnais à installer des nichoirs à abeilles sauvages. Ça va bientôt être le moment. Donc c'est des petits hôtels à insectes, vous pouvez les acheter partout, vous pouvez les fabriquer, c'est tout simple, vous trouvez ça sur internet, vous trouvez ça sur tous les sites. Ce ne sera pas les abeilles qui feront du miel, mais ce sera quand même un beau geste pour la biodiversité, parce qu'elles vont venir habiter là-dedans.
Elles y viennent
Elles y viennent, nous sur... Ben, alors on va faire un petit peu de pub pour ça, j'ai sur le site internet de ça, j'ai fait des photos de mes petits nichoirs à abeilles sauvages. Vous voyez vraiment les abeilles qui rentrent dedans. C'est une autre espèce, hein. C'est pas de la Apis mellifera, hein. C'est tout à fait une autre espèce, mais elle a sa place dans la vie, quoi.
Oui, mais je crois que c'était utile de préciser ça, parce qu'en l'occurrence, l'esprit du lieu, si j'ai bien compris, il s'agit pas de produire. Et en l'occurrence, là, les abeilles, évidemment qu'elles feront du miel, mais c'est pas le fond du propos. Si ce qui me paraît devoir être à souligner, c'est que c'est leur côté sentinelle de l'environnement qui importe dans l'histoire.
Ah, tout à fait. D'ailleurs, chez SAGE, on ne produit pas de miel, hein, on ne vend pas le miel, on le donne. C'est-à-dire qu'on va le donner aux enfants lors des manifestations, on va le donner, par exemple, sur la fête de la presse et à Chenauve, on va le donner aussi, on fait des dons au centre Leclerc pour un petit peu mettre du sucre et un joli produit aux gens qui sont à l'hôpital. Donc nous, les abeilles nous font ce cadeau, donc on le donne. D'accord. Alors on en prélève une petite partie quand même pour faire des analyses, et là on est super surpris, on est même agréablement surpris de voir certains pollens, certaines variétés qu'on ne pensait pas exister sur Dijon et qui existent puisque nos abeilles ont été les récolter. Et le fait d'avoir une quinzaine de ruchers éclatés un petit peu partout nous fait une cartographie vue d'abeilles de ce qu'elles ont pu récolter. Et ça, c'est génial.
Ouais, c'est vraiment cool. Alors, ça me fait penser, Luc, il y a la LPO, il y a un rendez-vous dans pas longtemps.
Ah oui, alors on organise tous les ans avec la communauté de communes de Gevrey-Chambertin un événement qui s'appelle le Festival Nature et qui est consacré chaque année à une espèce ou à un ensemble d'espèces et pour lequel on attend beaucoup de monde. C'est sur 2 jours, le 11 et le 12 mars.
C'est ça. Mais l'année dernière, il y a eu beaucoup de monde. Oui, c'était sur la piste du renard et c'était très chouette.
On attend en général 1 millier de personnes sur l'ensemble des deux jours.
Ouais, c'était vraiment bien. Vous y serez, fruits malins, sages, graines de Noé ?
Cette année ?
Oui.
Ah ben, on va essayer.
Ah, mais attends. Autant que je le sache, il y a l'AG de graines de Noé.
On a besoin de bénévoles. Hein, s'il y a des gens qui sont intéressés, il n'y a aucun problème.
Fruits malins, vous y serez ?
Oui, il n'y a pas de souci.
Sages ?
Oh ben, sages, on va faire un petit mail là, à tous nos adhérents. Et là, c'est sûr, il y aura forcément des gens qui vont venir.
Non, mais pour y faire un stand ?
Ah, pour y faire un stand, ça alors, pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Ben voilà, suffit de se manifester, alors pas de souci.
Allez, on essaye.
Bon, alors, je vais m'amuser un petit peu, tiens. Et je vais vous demander à chacun d'entre vous de me donner le premier mot qui vous vient à l'esprit concernant ce qu'on va faire au Valando. Hélène ?
Semence.
Colin.
Partage.
Luc.
Écosystème.
Xavier.
Fédérable, ou
quelque chose
comme ça.
Looping.
Ah bah nous, ce sera sauvegarde.
Gaël.
Ah bah nous, ça va être de la taille, hein, y a du boulot.
Et moi, ce sera paisibilité. Alors, on va finir cette émission. Merci, cette émission. Merci, un grand merci à vous d'être venu. C'était un vrai plaisir. De toute façon, c'est un vrai plaisir à chaque fois de vous retrouver. Je voudrais saluer au passage quand même le Jardin des Sciences qui sera aussi partie prenante dans ce projet et puis qui intervient aussi dans la biodiversité urbaine, mais avec les bombes florales, avec des trucs très marrants. Et puis de toute façon, voilà. C'est vraiment une belle institution. Et par ailleurs, signaler le prochain rendez-vous à venir, toujours dans le cadre du mois de la biodiversité en partenariat avec Alternativa et la Maison Phare. Et ça sera le jeudi 23 mars à 19h, café voisin-voisine. Et ce sera un débat à nouveau sur la biodiversité urbaine, où on retrouvera d'ailleurs Luc de la LPO, tu seras présent. Un grand merci à tous encore une fois et au revoir.
Au revoir à tous.
Au revoir.